bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les multiples facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, mort ou assassinat d'un leader politique et crainte pour l'avenir au Tchad. L'élection présidentielle est annoncée pour le 6 mai malgré les tensions politiques et les violences. Et nous retrouvons notre correspondant qui parle d'un pays en quête de paix et de démocratie. Afflux massif de réfugiés fuyant les violences au Burkina, manque d'abri et d'aide humanitaire, appel aux autorités pour une intervention conjointe. Tidiane Ouédraogo livre la photo de cette crise humanitaire à Koro, au Mali. Les chefs traditionnels burkinabés, acteurs majeurs de la cohésion sociale et de la paix face à l'insécurité persistante au Burkina Faso. Et dans notre fait marquant de la semaine, nous revenons sur l'arrestation d'un colonel malien pour un livre évoquant les abus de l'armée. Mali, le défi du terrorisme en Afrique, publié fin 2023, est intitulé de l'ouvrage controversé. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Le Tchad a été secoué par des violences politiques la semaine dernière, marquées par une attaque meurtrière du bâtiment des services de renseignement et l'assaut contre le siège du Parti Socialiste Sans Frontières, dont le chef Yaya Dillo a été tué. Ces incidents surviennent peu de temps après l'annonce de la date de l'élection présidentielle fixée au 6 mai. Le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a décidé de se présenter à cette élection, répondant ainsi à la demande d'une coalition de partis, dont celui de son défunt père, le mouvement patriotique du salut. André Kodmajingar, notre correspondant, a fait le point de N'Djamena.
Nous allons nous lever, on va porter cela devant vos caméras.
Le GCAP, le groupe de concertation des partis politiques, un regroupement des partis politiques de l'opposition hostile au régime de la transition auquel Yaya Dillo faisait partie, dénonce ce qu'il qualifie d'un assassinat ciblé accusant le pouvoir de se débarrasser d'un adversaire politique. Docteur Nassour Ibrahim Koursami, membre du GCAP.
La junte a décidé d'exécuter Yaya. Pourquoi? C'est juste pour nous envoyer un message. Si nous sommes candidats à la prochaine élection, nous sommes candidats à la mort. C'est ça le message qu'il a envoyé. Nous demandons à la communauté internationale de réagir. Le double standard ici au Tchad est inacceptable. Je vous donne l'exemple de l'opposant russe qui est mort dans la prison. Vous comparez la réaction de la communauté internationale avec celui de Yaya. Il est exécuté par des instructions directes du président de la transition. Pour moi, et pour les acteurs politiques, et pour le peuple tchadien, on le considère comme complice de ce qui se passe ici.
D'autres acteurs politiques comme Bidi Valentin du Pape GS estiment qu'en 3 ans de transition, le Tchad ne vit que dans la violence qui a occasionné plus de pertes en vie humaine.
Le nombre de morts qu'on a enregistré depuis que la transition a commencé en 2021 dépasse les gens qui ont trouvé la mort sous le régime de Idriss Déby Itno qui a duré plus de 3 décennies.
De passage à Washington, le premier ministre tchadien Succé Masra dit déplorer la mort de Yaya Dillo et appelle à l'apaisement.
Notre pays a vécu trop de violence. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi, nous, de nous engager sur un chemin de réconciliation. Mais comme un envol, il y a des zones de turbulence. Cette zone de turbulence en est une, sans doute, de trop. de plus, sans doute de trop, parce que même quand une vie humaine est perdue, pour les Tchadiens, c'est un problème.
Une situation qui fait peur aux femmes chrétiennes. Elles invitent les fidèles à prier pour la paix au Tchad.
Dans le monde, les gens parlent que nous sommes sur une bombe, ceci, cela. Mais c'est Dieu seul qui est le créateur. Il n'y a pas de bombe. En tant que chrétiens, nous avons la foi que le Seigneur, la main du Seigneur est sur notre pays. On a dit le Tchad, là, c'est le cœur de l'Afrique. Donc nous donnons le Tchad à Dieu. Le Tchad qui est le cœur de l'Afrique, nous donnons le Tchad à Dieu. 1 284 000 km². Nous traçons une ligne de sang tout autour de ce territoire-là. Et nous implantons la croix sanglante de Jésus-Christ dans la place de l'indépendance, dans la place de la nation. Rien n'arrivera au Tchad.
C'est dans cette situation de tension que le président de la transition, Mohamed Idriss Déby, a dit oui à son investiture par le MPS, le parti de son feu, défunt père, soutenu par plus de 200 partis politiques regroupés sous la bannière de la coalition Tchad Unie. André Kotouma Djingar pour VOA Afrique, Djamena.
Voilà, nous sommes en ligne avec André Kotouma Djingar pour continuer la discussion. André, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Alors, comment décririez-vous l'état d'esprit général de la population? Y a-t-il une crainte répandue parmi les citoyens quant à exprimer leurs opinions politiques ou leurs préoccupations publiques après la mort de Yaya Diallo?
Oui, la mort de Yaya Diallo sème le trouble et l'inquiétude avant les élections, puisque les élections vont se tenir dans 2 mois. Alors, si les Ndiamenois vaquent de nouveau à leur activité, une profonde inquiétude persiste jusqu'au sein même du cercle du pouvoir et chacun s'interroge même sur les possibles conséquences sécuritaires et politiques que cela va engendrer, que la mort de l'opposant Yaya Diallo va engendrer. Alors les fouilles inopinées continuent de plus belle hein, dans les quartiers périphériques et les justifications que les autorités apportent donc au sujet de la mort de cet opposant laisse perplexe certains acteurs politiques et de la société civile déjà inquiets en vue même de la campagne électorale qui va démarrer dans quelques jours. Ce qui inquiète encore davantage, c'est que juste après la mort de Yaya Diallo, le siège même de son parti a été complètement dévolu. Et donc ce qui reste aujourd'hui, c'est le champ des ruines. Alors cela suppose que même les archives de ce tombe politique seraient totalement détruites. Donc, voilà un peu, il y a une situation de
André,
de la population. Oui.
André, et comment les chancelleries africaines et occidentales réagissent-elles à cette mort de Yaya Diallo et aux accusations portées contre le pouvoir en place?
Oui, les chancelleries, aucune chancellerie à Djamena n'a dénoncé, sinon condamné la mort de Yaya, sauf Human Rights Watch qui a donc publié, communiqué, pour dire que Yaya Diallo a été donc exécuté et que pour le reste de l'opposition, ils évoquent donc un assassinat d'un homme politique gênant et donc pour l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles. Human Rights Watch qui réclame aussi une enquête indépendante avec une aide étrangère sur le meurtre.
Merci. Merci André. Nous serons avec Human Rights Watch tout à l'heure pour justement approfondir la discussion. Mais je vais d'abord vous donner les commentaires de quelques auditeurs sur Facebook. Passi Diaby, il dit vraiment l'Afrique a du chemin à faire. Roland Chilba Yao, il dit comme d'habitude, les enquêtes resteront en cours jusqu'à ce que l'assassinat de Yaya Diallo soit oublié. Et à mon avis, la justice ne sera jamais rendue pour sa mort tant que Déby sera au pouvoir. En ce qui concerne les élections présidentielles, le président de la transition a violé la charte en se présentant puisqu'elle stipule qu'aucun membre du gouvernement de transition ne devrait se représenter. Enfin, tout semble être arrangé pour que Mahamat Déby remporte facilement les élections. C'est le point de vue de Roland Chilba Yao. Bazema, il dit, je cite, « Il est indéniable que Déby détient un monopole décisionnel sur le gouvernement en place et sur l'appareil judiciaire. Ainsi, pour découvrir la vérité, il faudrait obtenir le témoignage de Yaya Diallo lui-même, ce qui semble improbable puisqu'il est déjà mort. » À mon avis, sans cela, il est probable que l'enquête demeure sans éclaircissement. Et en ce qui concerne le processus électoral, tout semble être prévu en amont, en lien avec la mort de Yaya Diallo, afin d'assurer la victoire du chef de la junte militaire au pouvoir et de perpétuer la dynastie familiale au Tchad. Je suis en ligne avec Karine Kaneza Nantulia, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. Karine, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors,
merci de m'avoir invité.
Merci d'être avec nous également. Quelles mesures peuvent être prises pour mettre en lumière les circonstances entourant la mort de Yaya Diallo et quels mécanismes d'oppression diplomatique envisager pour garantir la transparence et l'accountability afin d'assurer que justice soit rendue?
Merci. Je pense que les mesures doivent être à la hauteur des enjeux. Comme votre collègue l'a mentionné, nous avons d'un côté la mort d'un opposant de poids. Il est important de relever que Yaya Diallo était quand même un opposant de premier plan à l'actuel président de transition. Les deux hommes sont réputés avoir étant cousins, originaires du même groupe ethnique. Et bien qu'il n'ait pas encore, il n'avait pas encore annoncé sa candidature à la présidence, l'intention de le faire lui était largement prêtée. Donc d'un côté on a sa mort et d'un autre nous avons quand même une élection sur fond de crimes sérieux qui reste impuni. Il est aussi important de relever que Diallo a été tué 3 ans jour pour jour après une attaque de son domicile par les forces de sécurité dans laquelle il avait tué sa mère âgée de 80 ans et blessé 5 autres membres de sa famille. Nous appelons à une enquête indépendante pour un établissement clair des faits et pour que justice soit rendue. Nous prenons aussi note de la réponse du gouvernement tchadien qui affirme vouloir coopérer avec toute enquête indépendante. Que faudrait-il faire? Faudrait un compte-rendu transparent des circonstances autour de la mort de Yaya Diallo pour rassurer les Tchadiens de toute tendance politique quant à la détermination du gouvernement de transition à assurer que l'élection prévue soit libre et équitable. Il y a d'autres questions, des questions de quelle institution, la Commission africaine, pourrait offrir son assistance et les partenaires internationaux du Tchad devraient faire de la justice une priorité dans leurs interactions pour éviter justement cette question de deux poids, un poids, deux mesures à laquelle ils se retrouvent confrontés de plus en plus.
Karine, quels sont les facteurs sociopolitiques sous-jacents qui alimentent les violences politiques récurrentes au Tchad dans la région du Sahel et que faire pour les atténuer à long terme?
Les violences politiques au Tchad et au Sahel ont leur origine dans une multiplicité de facteurs, y compris une insécurité croissante, des situations de blocus qui sont générées par les djihadistes dans de nombreuses régions, qui laissent des communautés entières coupées du reste du pays, confrontées à elles-mêmes et à des problèmes graves humanitaires, ainsi que les exactions des forces de sécurité. J'aimerais mentionner deux éléments qu'il est important à retenir et que nous avons toujours relevé, que Human Rights Watch a toujours relevé. Premièrement, il y a une autocratie grandissante qui tout doucement mène à la rupture du contrat social entre les populations de base et leurs gouvernants. Et deuxièmement, le contexte d'insécurité que nous avons déjà mentionné. Et ces deux aspects s'illustrent sur deux plans. Nous avons des exécutions extrajudiciaires commises, que ce soit par les forces de sécurité, les militaires ou les islamistes armés, qui favorisent un recrutement au sein des groupes armés violents. Et nous avons un cycle qui se régénère à chaque fois. Et deuxièmement, une absence, une carence systémique de justice pour les abus qui sont vécus par ces civils. Et donc, pour inverser cette tendance, nous avons toujours appelé aux dirigeants actuels des pays du Sahel et leurs partenaires de veiller à la protection des civils, respect de la discipline des militaires lors de leurs opérations et exiger des auteurs des exactions qu'ils rendent compte de leurs actes et redoubler d'efforts pour empêcher de nouvelles atrocités. Et finalement, la question des droits humains devrait être au cœur des stratégies militaires et politiques.
Justement, je voulais rebondir sur ça, Karine. Comment les restrictions croissantes des libertés civiques dans le contexte régional du Sahel, telles que les atteintes à la liberté d'expression et les arrestations arbitraires, contribuent-elles à l'instabilité politique et quelles actions pourraient être entreprises pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme dans la région?
Lorsque nous parlons de restrictions, il faut un petit peu to unpack à quoi nous référons. Nous avons des méthodes brutales comme les lois d'urgence, les mesures de conscription pour punir et réduire au silence les personnes perçues comme des détracteurs ou des opposants. Et tout ceci dans un contexte d'insécurité. L'impact, je pense que j'aimerais partager un témoignage d'un défenseur des droits humains qui est basé dans la région du Sahel, qui en dit long. Il nous a raconté ceci. Un journaliste m'a appelé pour que je commente une récente attaque par des combattants islamistes. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que vous voulez que je sois conscrit on exprime votre opinion, notre opinion sur la situation du pays, et nous allons nous retrouver au front, et ça, c'est la réalité. Alors, ces attaques fragilisent les relations entre les autorités et la population. La population en elle-même contribue à une perte de confiance, remet en discussion le pacte social. Et en fait, c'est ça l'enjeu. C'est que le pacte social se retrouve érodé. Et cela crée des conditions pour une déstabilisation politique, sociale, parce qu'elles alimentent ces frustrations. Que faut-il faire ? Il faut restaurer un dialogue de proximité avec des gens au niveau local, avec les communautés de base. Il faut lutter contre l'impunité, renforcer le système judiciaire et travailler de concert avec la société civile qui de plus en plus se retrouve attaquée et ciblée. Et ne pas fermer la porte au dialogue et non pas ces dialogues politiques.
Merci Karine Kaneza Nantulia pour toute cette précision. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Crise humanitaire à Koro, dans le centre du Mali. Depuis le début de la semaine dernière, des milliers de réfugiés burkinabés affluent en raison des récentes violences. Selon la Commission nationale chargée des réfugiés à Koro, environ 25 000 personnes ont fui leur Burkina natal pour trouver refuge dans la ville. Pour en savoir davantage sur la situation, suivons ce reportage de Tidiani Ouedraogo.
La plupart des personnes qui franchissent la frontière du Burkina sont des femmes et des enfants qui arrivent dans un état de dénuement total. Comme Risnat Ouedraogo, beaucoup trouvent refuge dans ces centres pour la promotion des femmes de Koro.
Les enfants n'ont pas mangé depuis ce matin. Là, je suis en train de préparer une soupe pour leur donner à manger.
Depuis le début de la semaine dernière, des réfugiés burkinabés affluent dans la ville de Koro au Mali. Ils font état de violentes attaques contre des civils. Bourema Kadré était présent les jours de l'attaque de son village par des hommes non identifiés.
Il n'y a pas petit, il n'y a pas la vieille, il n'y a pas tout, même les femmes enceintes, tout, ils ont tué tout. Même les animaux, ils ont tué tout.
Face à la situation intenable, beaucoup de réfugiés continuent d'arriver au Mali. Pas de site d'accueil à Koro et beaucoup de réfugiés sont dans les rues sans abri. Fanta Giro, bébé dans les bras, nous raconte son calvaire.
J'ai perdu quelques membres de ma famille dans l'attaque. J'ai pas de moyens pour trouver un abri. Pour le moment, je reste dans cette cour.
Le nombre de personnes arrivant à Koro en raison des violences de l'autre côté de la frontière augmente rapidement, provoquant une crise humanitaire dans la ville.
Et d'une trentaine comme ça, comme vous pouvez constater, leurs effets même sont dehors à présent. Il n'y a pas un local là, il faut me mettre. Leurs affaires sont dehors pendant 3 jours de cela. Lançons un appel aux autorités maliennes et burkinabées de venir au secours à ces réfugiés, car nous-mêmes, nous n'avons plus de moyens pour les héberger.
Cela se passe à un moment où les organisations humanitaires se font rares dans les centres du Mali. Dans cet unique centre d'enregistrement à Koro, la demande est forte et les enregistrements se poursuivent, comme nous l'explique Habib Tekite, agent d'enregistrement.
Je suis en train de saisir les réfugiés burkinabés et nigériens. Pour le moment, on n'a pas le nombre exact. On est là-dessus.
En attendant, Koro continue d'accueillir des réfugiés, une ville déjà affectée par une pénurie d'eau. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Merci Tidiani. Nous restons au Mali où le colonel Alpha Yaya Sangaré a été arrêté samedi soir pour son livre Des passages de l'ouvrage évoquent les exactions de l'armée malienne contre les civils. Le ministère de la Défense a condamné les allégations de violation des droits de l'homme qu'il a qualifiées de fausses accusations. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec le journaliste Sekou Tangara, directeur de Africable TV, notre station partenaire à Bamako. Bonsoir Sekou.
Bonsoir.
Brièvement, pouvez-vous nous donner des informations sur le parcours et le rôle précis du colonel Alpha Yaya Sangaré au sein de l'armée malienne avant son arrestation?
Oui, Alpha Yaya Sangaré, hein, c'est un homme, hein, déjà c'est un fils d'officier, c'est un colonel de gendarmerie aussi critiqué que respecté dans les milieux, mais tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a eu à diriger la mutuelle de la gendarmerie. Il a également eu à diriger la FORSAT, la force antiterroriste, une unité qui combinait différents éléments des forces de défense et de sécurité des unités d'élite. Il a eu à diriger cette FORSAT. Et puis, après le régime Ibrahim Boubacar Keïta, il était un peu tombé en disgrâce, mais on l'a revu, également nommé conseiller au ministère de la Défense et des anciens combattants. Donc, brièvement, c'est ce qu'on peut dire sur le parcours de l'homme.
Et quelle est la réaction générale du public malien face à son arrestation et à la controverse entourant la publication de son livre?
Les réactions dépendent du port où les uns et les autres se situent. Par exemple, pour les détracteurs de la transition, c'est avec beaucoup d'humour, avec un ton moqueur qui parle de cela. Comment est-ce qu'on peut valider, assister à la dédicace d'un livre à un niveau de responsabilité de l'État sans au préalable avoir lu le livre en question, puisque des ministres du gouvernement, des officiers de l'armée ont eu à assister à la dédicace du livre qui avait déjà été sorti en décembre 2023. Ça, c'est pour les détracteurs du régime, mais pour les soutiens de la transition, ce livre n'apporte pas quelque chose de nouveau qui n'ait pas été évoqué par les organismes de défense de droits humains. Pour eux, si le colonel Sangaré était sur le terrain, ça allait être quelque chose de grave. Mais dès lors qu'il n'était pas sur le terrain et dès lors qu'il n'a fait que rapporter ce que les ONG, ce que Human Rights Watch en l'occurrence ont dit, donc pour eux, c'est vraiment un non-événement étant donné que les accusations sont même au conditionnel.
Et comment les médias locaux ont-ils assuré la couverture de cette affaire en termes de liberté éditoriale et d'objectivité?
Il y a eu beaucoup de prudence, hein, parce que c'est une question de l'armée entre colonels, mais les rares médias qui se sont aventurés ont peut-être consacré des émissions, des plateaux débats. Ils ont peut-être commenté de façon superficielle. Au-delà de cela, il y a eu un ou deux éditos, notamment le National, un journal qui a fait un éditorial sur la crise, qui pense que les chargés de communication, les conseils juridiques de certains départements, et puis même certains ministres doivent rendre le tablier pour négligence.
Merci Sekou Tangara. Je signale que vous êtes journaliste et directeur de Africable TV, notre station partenaire à Bamako. Je vous souhaite une excellente soirée, Sekou Tangara.
Merci.
Voilà, nous poursuivons donc notre émission Focus Sahel. On va parler du Burkina Faso dans un instant où le pays, confronté à des attaques terroristes depuis près d'une décennie, la lutte pour recouvrer l'entièreté du territoire se poursuit dans le Sahel burkinabé et d'autres régions. Les chefs traditionnels et coutumiers jouent un rôle crucial en promouvant la cohésion sociale et le vivre ensemble en vue de retrouver l'unité et la paix. Notre correspondant à Ouagadougou, Gilles Dasda, a rencontré ses leaders traditionnels engagés dans la recherche de la paix.
Devant des ressortissants de la région du Sahel, l'une des plus touchées par le terrorisme au Burkina, Boubacar Diko explique les comportements à avoir pour tendre vers la paix et la cohésion sociale. L'homme est responsable de Faso Kibaru, média en langue nationale qui promeut la cohésion. Il est aussi à la tête d'une association qui a le même but, avec pour zone cible le Sahel burkinabé. Dans ses activités pour la recherche de la paix, les chefs traditionnels figurent en bonne place.
Donc nous ne pouvons pas en tout cas réussir aujourd'hui, en tout cas
cas, l'aspect, la cohésion sociale ou le retour de la paix, en tout cas, sans impliquer les chefs coutumiers et religieux que nous avons. Quand vous prenez d'autres communautés qui sont restées, peut-être à Arbinda, qui sont restées à Markoy, qui sont restées à Gorom, à Seba, mais les communautés qui vivent ensemble, qui ne se parlent pas, et vous partez avec leurs personnes de ressources, naturellement, ça va les montrer une autre image et ça va les amener aussi à réfléchir pour se dire que, bon, on doit aussi, en tout cas, s'asseoir, discuter ensemble et on doit s'entendre pour aussi aller ensemble pour que la paix revienne.
Pour espérer le retour de la cohésion sociale et de la paix tant attendue par les Burkinabés, des chefs traditionnels comme Issa Bangalou, émir de Loudalan, ont pris leur bâton de pèlerin. Loudalan est en plein cœur du cyclone de l'insécurité, mais son chef, désormais basé à Ouaga, se bat pour un avenir radieux.
Qui nous évite même d'aller au chaos. On a des jeunes dynamiques qui sont dans la province, qui veillent dans les différents secteurs. À chaque fois, s'il y a quelque chose, nous, on est informés. Dans les minutes qui suivent, et aussitôt, on mobilise les gens pour agir.
Agir pour éviter que la situation n'empire, c'est aussi ce qui est fait dans le Liptako. Là aussi, c'est l'émir qui mène le combat pour les mêmes buts, cohésion sociale et retour de la paix. L'émir Ousmane Amirou Diko a sous sa coupe la ville de Dori et 200 villages au Bamo.
Il y a des 200 villages, nous renseignons tous les jours ce qui se passe et essayer de dire aux gens, faites attention, ne suivez pas. Parce que nous avons malheureusement oublié des choses. Chef coutumier, fragile. Ça fait une communauté fragile. Une communauté fragile, ça amène des jeunes fragiles. Et un jeune fragile est sans repère. Lorsqu'il est sans repère, il se tourne vers quoi? Vers tout ce qui nous hante en ce moment. Donc c'est une éducation permanente, une sensibilisation permanente des communautés.
L'Émi, dont la zone d'influence est sérieusement touchée par l'insécurité, se bat au jour le jour. Son objectif, éduquer pour ramener la tranquillité dans la région du Sahel et partant le Burkina entier. Ousmane Amirou Diko est à la tête du conseil des chefferies coutumières du Sahel.
Nous jouons un rôle fondamental. C'est le ciment de notre nation, la chefferie coutumière.
Une chefferie coutumière qui, toute communauté confondue, s'engage de plus en plus pour un Burkina de paix. Pour l'émir du Liptako, un message demeure à l'endroit des groupes armés terroristes.
Donc, j'appelle les jeunes là à retrouver la maison et à retourner à la maison pour qu'on puisse tous se réunir et bâtir ce pays que nous avons en commun. C'est le seul.
Cri du cœur d'un chef traditionnel à l'image de centaines d'autres Burkinas qui donnent de leur personne et de leur influence pour remettre le pays sur le droit chemin. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci à Gilles Dasda pour toutes ces précisions. Avant de mettre fin à notre édition, le rappel des principaux titres. Mort ou assassinat d'un leader politique et crainte pour l'avenir au Tchad. L'élection présidentielle est annoncée pour le 6 mai malgré les tensions politiques et les violences. Vous avez suivi le reportage de notre correspondant André Kodmajingar et l'analyse de Karine Kaneza Nantulia, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. Afflux massif de réfugiés fuyant les violences au Burkina, manque d'abri et d'aide humanitaire. Appel aux autorités pour une intervention conjointe. Tidiani Ouedraogo vous a donné la photo de cette crise humanitaire à Koro au Mali. Et les chefs traditionnels burkinabés, acteurs majeurs de la cohésion sociale et de la paix face à l'insécurité persistante au Burkina Faso. Et dans notre fait marquant de la semaine, nous sommes revenus sur l'arrestation d'un colonel malien pour un livre évoquant les abus de l'armée. Mali, le défi du terrorisme en Afrique, publié fin 2023, c'est l'intitulé de l'ouvrage controversé. Et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans son voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants. Merci à Lionel Lunanilagahima, Trésor Matondo, qui ont réalisé et produit cette émission. Eric Manirakiza était avec vous.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue,
Vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.